Il est 7h.
On est une grande équipe aujourd'hui. On a vraiment tout pour gagner tout le tournoi et essayer la Ligue Champion.
La confiance du président du PSG, le club de la capitale qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, malgré une défaite 1-0 hier soir contre le Bayern Munich. L'enlèvement d'une petite fille de 8 ans hier dans les Vosges, les enquêteurs soupçonnent sa maman d'avoir commandité le rapt. Dans ce journal aussi, le vaccin AstraZeneca, objet de nouvelles plaintes selon les informations d'Europe 1. 9 décès suspects désormais entre les mains d'un avocat. Et puis, des festivals en version réduite ou délocalisée, les astuces du monde de la culture pour pouvoir être au rendez-vous cet été malgré le Covid. Juste après ce journal, les Claire Ageco, Nicolas Barré, le regard international avec Jean-Sébastien Soldaini.
Il y a 3 jours, tout le monde pensait que l'accord sur le nucléaire iranien pouvait repartir. Il a suffi d'une petite explosion pour relancer les centrifugeuses iraniennes qui tournent à plein régime.
L'édito sport de Virginie Fulpin, et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, visiblement ici tout le monde est bien réveillé, personne n'est dans le coltar. Tiens, d'où ça vient cette expression être dans le coltar?
Très bon réveil à toutes et à tous, la réponse dans une vingtaine de minutes. Vous écoutez Europe 1, bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et une ambiance de fête pour commencer ce journal. Marion Calais, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On est en demi, l'ambiance dans les vestiaires du PSG. Hier soir, les Parisiens qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'ils se sont inclinés hier soir sur leur pelouse face au Bayern, 1-0. Mais le matelas des 3 buts inscrits la semaine dernière à l'extérieur a suffi.
Une avance cette fois que Paris a su conserver. Cyril de la Morinerie, vous nous avez fait vivre ce match hier soir sur Europe 1. Les Parisiens ont résisté jusqu'au bout aux assauts bavarois.
Oui, c'était une guerre sur le terrain. C'est ainsi que le capitaine Presnel Kimpembe a décrit ce bras de fer. Les Parisiens ont tremblé, 1 but de plus et c'était l'élimination, mais la digue a tenu. Se félicite l'entraîneur Mauricio Pochettino, qui est resté zen près de son banc de touche.
Je l'ai vécu tranquillement, normal. J'étais focalisé sur mes joueurs en essayant d'aider l'équipe. L'idée était la même et je crois que l'on a mieux défendu.
En première mi-temps, on a cru revivre la finale perdue par Saint-Etienne en 1976 et ses maudits poteaux carrés. Neymar a touché 2 fois les montants, mais le Brésilien aurait mérité d'être récompensé, analyse notre consultant Giroud.
Il a été dans un état moral dans lequel il devrait être toujours. C'est-à-dire qu'il a joué. Il a joué avec l'arbitre, il a joué avec ses adversaires d'une manière correcte. Il y a quelques chefs-d'œuvre techniques.
Pour la 3e demi-finale de leur histoire, les Parisiens retrouveront le Borussia Dortmund ou Manchester City qui s'affrontent ce soir. Une dernière étape à franchir avant de rallier Istanbul où se déroulera la finale.
Et pour le président du PSG, désormais Mbappé et Neymar n'ont plus d'excuses pour partir. On a tout pour gagner la Ligue des Champions, a donc dit Nasser Al-Khelaïfi.
Une alerte enlèvement brièvement déclenchée hier soir après le rapt d'une petite fille de 8 ans dans les Vosges.
Kidnapping signalé aux Poulières près de Saint-Dié-des-Vosges. Vous êtes sur place pour Europe 1, Arthur Mbaché. C'est la grand-mère de l'enfant qui a signalé sa disparition.
Oui, bonjour Marion, parce que ça s'est passé ici, chez la grand-mère de la petite fille. Hier, 11h30 du matin, 3 hommes se présentent donc ici devant cette ancienne ferme vosgienne, un peu à l'écart du village des Poulières. On est ici entre Épinal et Saint-Dié. Ils kidnappent la petite Mia. Les ravisseurs ont entre 25 et 50 ans. L'un d'eux porte un tatouage en forme de croix au niveau du cou, dit la gendarmerie, qui indique qu'ils sont susceptibles de rouler dans un van Volkswagen gris anthracite. Les enquêteurs qui précisent que la petite fille pourrait être accompagnée de sa mère, une femme de 28 ans. Et là, on nous parle d'une Peugeot 207 noire. Alors, tard hier soir, le parquet d'Épinal a décidé, après quelques heures de diffusion, de lever le dispositif alerte enlèvement en précisant que l'enfant n'avait pas été retrouvé et en donnant quelques détails. La fillette a été enlevée alors qu'elle était confiée à sa grand-mère par une décision du juge des enfants. Sa mère n'avait pas le droit d'être seule avec elle. On ne sait pas précisément pourquoi. Le parquet qui fait savoir ce matin que le danger est persistant et que les recherches actives se poursuivent. La petite fille a 8 ans, elle mesure 1m30, cheveux raides, longs et bruns avec une frange, pantalon noir, doudoune blanche.
Arthur Mbaché dans les Vosges pour Europe 1. Ils avaient transféré un gîte près de Toulouse en discothèque clandestine le week-end dernier. 2 hommes d'une 20aine d'années mis en examen hier. L'un d'eux à la tête d'une petite société d'événementiel a été placé en détention provisoire.
Il est intitulé « Pour la confiance dans l'institution judiciaire ». Le projet de loi du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, arrive aujourd'hui en Conseil des ministre.
Un texte déjà contesté dans le milieu des avocats et des magistrats. Plusieurs mesures critiquées, dont la suppression de la réduction automatique des peines ou la généralisation des cours criminels. Ces cours sans juré populaire chargé de juger les crimes passibles jusqu'à 20 ans de prison. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 8 heures.
Mais au-delà du milieu judiciaire, ce texte pourrait bien aussi susciter l'intérêt du grand public parce qu'il prévoit d'ouvrir les salles d'audience aux caméras. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, seuls les procès à portée historique sont filmés. Demain, tous les types d'audiences pourraient être enregistrés, mais aussi diffusés, Marion Dubreuil.
Oui, la diffusion d'un procès ne sera possible que lorsque la décision de justice sera définitive. Vous ne verrez pas d'audience à la télévision avant plusieurs années. Les audiences seront choisies en fonction de l'intérêt public, pas médiatique. En clair, pas de procès d'aval, mais pourquoi pas une audience de comparution immédiate. Pour ce qui est des règles d'enregistrement, si le procès est public, que vous soyez partie civile, prévenu, peu importe, pas besoin de votre autorisation pour vous filmer. Le principe de base, c'est d'empêcher tout moyen de vous identifier. Nom, prénom, adresse, visage, sauf si vous acceptez la diffusion. Et même si c'est le cas, vous avez le droit à l'oubli 5 ans après la première diffusion. Sur quel canal ? Eh bien, le garde des Sceaux ne s'en cache pas. Il privilégie le service public, mais plusieurs chaînes ont déjà proposé des formats. Dans l'idéal, Éric Dupond-Moretti souhaiterait un rendez-vous hebdomadaire avec un cadre explicatif. Les audiences, qui durent parfois plusieurs jours, ne pourront pas être retransmises telles quelles. Il faudra monter des séquences, quitte à proposer l'intégralité du procès en streaming.
Des prêtres en arrêt de travail. L'appel hier de l'Église catholique d'Haïti après l'enlèvement de 7 des siens. La conférence des évêques haïtiens entend dénoncer l'inaction du pouvoir face à des bandits qui agissent, selon eux, en toute quiétude.
7h07 sur Europe 1. Des vaccins et des soupçons. La France va devoir attendre avant de pouvoir commencer les injections des doses du laboratoire Johnson & Johnson.
Un sérum dont l'utilisation a été suspendue aux États-Unis pour de rares cas de thrombose. Dans la foulée, le laboratoire a annoncé qu'il retardait le déploiement de son vaccin en Europe.
Une nouvelle embûche pour la vaccination, déjà compliquée par la méfiance suscitée par le vaccin AstraZeneca.
Oui, et selon les informations d'Europe 1, ce sont désormais 9 décès suspects qui sont entre les mains d'un avocat de Saint-Nazaire, déjà désigné par la famille d'un jeune interne du CHU de Nantes, mort 10 jours après une injection. Plusieurs plaintes ont donc été déposées, explique cet avocat, maître Étienne Boitin.
Parmi les personnes qui sont décédées, aucune ne présentait un quelconque antécédent médical en relation avec la survenance d'une thrombose qui leur a été fatale. Les plaintes qui ont été déposées l'ont été sur le fondement de l'homicide involontaire. Cette qualification pourrait être amenée à évoluer. Concernant des personnes qui ne sont pas décédées, mais qui disent avoir déploré des conséquences graves suite à l'injection d'AstraZeneca, nous avons une quinzaine de dossiers. Ce sont essentiellement des atteintes de nature vasculaire ou de nature neurologique.
L'avocat maître Étienne Boitin qui affirme également avoir été saisi pour 2 cas présumés de complications liées au vaccin Pfizer. Il répondait pour Europe 1 à Charles Guyard.
Les liaisons aériennes suspendues entre le Brésil et la France. Paris qui cherche à éviter la propagation du variant brésilien.
Un variant qui sème le chaos en Amérique du Sud. Mais qu'en est-il pour l'heure en France? On a décidé ce matin de faire un état des lieux avec vous, Victor Dolande.
Alors pour le moment, le variant brésilien d'IP1 ne représente que 0,5% des contaminations en France, et donc très peu. Si on regarde plus précisément les territoires, il est davantage présent dans le nord-est du pays, mais aussi dans la Creuse, en Vendée et en Guyane. Si ce variant préoccupe tant les autorités, c'est parce que les vaccins sont moins efficaces contre lui. Suspendre les vols entre la France et le Brésil, c'est donc une bonne chose, mais c'est insuffisant pour Christine Rousiou, virologue et membre de l'Académie de médecine.
Il faut contrôler ce qui se passe sur le pays, avec du séquençage en très grand nombre de virus pour savoir où il y a du virus brésilien et comment il faut isoler ces personnes.
Ce qui inquiète encore plus Yannick Simonin, virologue à l'INSERM, c'est la situation totalement hors de contrôle au Brésil.
Une forte circulation virale et une forte circulation de variants dans un pays qui ne contrôle pas son épidémie, ça peut aboutir à l'apparition de nouveaux variants. Et donc vraiment, ce qui est important, c'est d'empêcher ces éventuels variants de venir sur le territoire.
La question est désormais géopolitique. Comment mettre la pression sur le Brésil pour mieux contrôler son épidémie? Car pour le coup, les scientifiques, eux, sont formels. Laisser circuler trop facilement le virus, c'est prendre le risque de voir des variants plus dangereux apparaître dans les prochains mois.
Victor Dolande.
C'est un nouveau risque face au Covid qui vient d'être identifié. On savait déjà que le diabète ou l'obésité pouvaient exposer à des formes plus sévères de la maladie. Eh bien, on découvre aujourd'hui que le manque d'exercice physique est aussi un facteur aggravant, selon une étude parue dans le British Journal of Sports Medicine.
Avant de se projeter dans un instant dans ce journal sur l'après-Covid, de rêver, de festivals ou de concerts, d'abord ces nouveaux chiffres dévoilés hier par Santé Publique France. On ne parle pas là de l'épidémie de coronavirus, mais de la pollution. 40 000 décès par an attribuables à l'exposition aux particules fines entre 2016 et 2019. Des décès évitables, souligne Santé Publique France, qui s'est intéressée aussi aux conséquences du confinement au printemps dernier. Il a permis d'éviter plus de 2000 décès liés donc à la pollution de l'air.
Une réunion donc demain à l'Élysée pour évoquer la réouverture des lieux fermés à cause du Covid. Si on se prenait un peu à regarder vers le bout du tunnel, l'échéance fixée à la mi-mai par Emmanuel Macron se rapproche.
Oui, et ce alors que le pic de la troisième vague n'a pas encore été atteint, malgré quelques 6000 malades du Covid actuellement en réanimation. Ce sont donc les conditions de la réouverture des bars, des restaurants, des terrasses, des salles de concert qui doivent être discutées. Mais déjà aujourd'hui, certains se préparent. On parlait des concerts. Ce sont les festivals désormais qui approchent. Pour l'instant, pour eux, la règle, c'est 5000 personnes maximum assises. Pour de nombreux événements, il a donc fallu se réorganiser, Angèle Châtelier.
Oui, prenez le festival Jazz à Vienne, par exemple. Une quarantaine d'artistes sont déjà programmés sur 20 jours cet été, car les contraintes imposées sont plus faciles à respecter que d'autres festivals. Les amateurs de jazz ont l'habitude des concerts assis. Et puis, c'est un événement de taille moyenne, ce que souligne Benjamin Tanguy, directeur artistique de Jazz à Vienne.
Nous, notre jauge en assis debout, elle est de 7500. Si on fait du tout assis, on est à 5007. Et si on applique cette distanciation sociale, on retombe à 4000 personnes. Et le festival 2021... c'est sûr qu'il ne sera pas pareil, mais on est assez proche, on va dire, de la configuration classique de Jazz à Vienne.
Chacun a sa solution pour que son festival puisse se tenir. À Carré, pour les vieilles charrues, on rallonge les festivités. Le festival se tiendra sur 10 jours au lieu de 4 pour pouvoir accueillir plus de monde sur la longueur. À Lyon, aux Nuits de Fourvière, on voit les choses en moins grand et on passe de 12 à 4 scènes. D'autres préfèrent changer de lieu. Le festival EuropaVox à Clermont-Ferrand sera exceptionnellement au stade Marcel Michelin pour permettre plus de distance entre les spectateurs. Le festival Rock in Évreux, lui, change même de nom et s'appellera pour son édition 2021 Rock in Chair, comprenez rock sur chaise.
Même en chaise, même sur chaise, on prend ce rock et ce retour des festivals pour cet été.
Un bon rocking chair, tiens, pour lire quelques recueils de poésie. Cette tendance dans les maisons d'édition passe du rock à la littérature, mais ça ne nous pose aucun souci. Cette tendance, le retour à la poésie. Pour Europe, hein, Nicolas Carreau.
Le prix Nobel de littérature 2020 est américaine et s'appelle Louise Gluck. En France, inconnue au bataillon, elle n'avait même jamais été traduite en français. Pourtant, on a eu Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, mais depuis, le roman est roi. Les éditions de l'Iconoclaste viennent de publier plusieurs recueils de poésie d'écrivains reconnus comme Cécile Coulon, Pauline Delabroix-Allard ou Akhenaton, le fondateur de IAM. Des livres courts, à peine 100 pages, et des textes vifs et brefs qui dépoussièrent le genre. Mathias Malzieux y publie le dernier règlement joyeux de la métrique amoureuse, pas de rime ou pas forcément un retour à la poésie libre.
On s'en fout que ça soit des quatrains, que ça soit de la prose. Pour moi, c'est une façon d'être au monde qui est un pas de côté. C'est en regardant le monde ou une situation d'une autre manière que la poésie peut arriver. Dans le cercle des poètes disparus, le professeur Keating dit à ses élèves à un moment de monter sur le bureau pour voir le monde d'un autre angle.
Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas ? Venez voir vous-même, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête.
Bête, sans doute pas, inutile, peut-être, mais comme dit Cyrano de Bergerac, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile.
Notre poète aussi, Nicolas Carreau, et son émission tous les week-ends à retrouver sur Europe 1.
La Voix est libre, évidemment, avec Nicolas Carreau, le dimanche à 14h. Merci Marion Calais, il est 7h14 sur Europe 1.